Si jamais vous êtes en France alors que vous écoutez cette émission, et si jamais vous vous demandez, comme ça, au hasard de vos pensées, où se trouvent les autres pays autour de vous, il n'est pas très difficile de trouver la réponse. Pour cela, vous pouvez vous référer à une carte ou à Google Earth, par exemple. Mais si vous êtes à Paris, vous verrez que vous êtes à environ 260 km en ligne droite de la Belgique et à 470 km de la Suisse. Mais que se passe-t-il si, au lieu de chercher une frontière à l'horizontale, vous la cherchez à la verticale, au-dessus de vous? Où est-ce que la France s'arrête en hauteur? Alors imaginez-vous au pied de la Tour Eiffel à Paris. Vous décollez, vous êtes en train de voler, vous partez en ligne droite vers le haut, vers l'espace. Au départ, vous croisez des merles et des pigeons, peut-être même un faucon. Puis, à quelques centaines de mètres d'altitude, vous êtes à hauteur de vol des petits avions et des hélicoptères. En atteignant 10 000 mètres de hauteur environ, vous traversez les couloirs aériens empruntés par tous les avions long-courriers du monde. Vous continuez à vous éloigner du sol et vous vous retrouvez dans une sorte de no man's land, ou plutôt de no man's sky, où seuls quelques ballons, quelques avions spéciaux volent encore. Mais vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez tout droit et vous vous retrouvez dans l'espace. Et là, vous vous arrêtez pour regarder la Terre sous vos pieds et vous vous demandez à quel moment êtes-vous sorti du territoire français. Et lorsque ça a eu lieu, chez qui êtes-vous entré? Le ciel appartient-il à quelqu'un ou est-il à tous? Et qu'en est-il de l'espace? À quel moment êtes-vous arrivé dans l'espace? Qui décide d'où l'espace commence? Alors, il n'existe pas de définition officielle, acceptée par tous, de l'endroit où l'espace commence. Mais celle qui est en général utilisée est la suivante. L'espace débute à l'altitude à partir de laquelle l'air est si ténu qu'un objet en vol tombe forcément, à moins d'avoir la vitesse qui lui permettrait de rester en orbite. Ça signifie que l'espace commence à l'altitude à partir de laquelle avoir des ailes ou non ne change plus rien pour voler. Cette hauteur se situe à environ 100 km de la surface de la Terre. Au-delà, c'est donc l'espace. Vous êtes à 200 km à l'instant, vous êtes au-dessus du territoire français, vous êtes dans l'espace. Au-dessus de vous encore, il y a des satellites. Il y en a plein. Et vous vous demandez cette fois-ci s'il ne serait pas, à tout hasard, des satellites espions. Et chose incroyable, c'est justement pour parler de l'espionnage dans l'espace que j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés trois remarquables invités que voici.
Bonjour, je m'appelle Thierry Grousselin, je suis un spécialiste de l'interprétation des images satellites. Ma vocation, je pense qu'elle a démarré d'abord par les cartes. C'était une fascination d'enfant. Et puis ensuite, j'ai découvert les photos aériennes quand j'étais scout. On pouvait regarder en stéréo, on pouvait reconstituer le relief. Et à partir de là, j'ai fait des études de géologie. Et dans ces études, au moment où je les ai faites, fin des années 70, commençaient à apparaître les premières images satellites civiles. Et là, c'était éblouissant. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier. La partie espionnage, la partie militaire, c'est plus un concours de circonstances. À l'époque, il fallait faire le service militaire. Et quand je suis arrivé, avec les études que j'avais faites, on m'a dit « tu vas aller faire la formation d'officier photo-interprète renseignement ». Je ne savais même pas que ça existait. Et depuis, ça fait 40 ans que je suis à la fois dans le monde militaire et dans le monde civil.
Bonjour, moi je suis Caroline Laurent. Alors, je suis directrice au Centre National d'Études Spatiales. Je m'occupe des projets de satellites en développement, en exploitation, mais aussi des projets de sondes qui vont dans l'univers et puis de ballons. Je fais ça depuis 5 ans et avant, j'avais fait toute ma carrière au sein du ministère des Armées, responsable du développement et de la réalisation de ce qu'on appelle les programmes d'armement, c'est-à-dire les projets. Et moi, j'ai surtout travaillé dans des projets de télécommunication, de renseignement, un petit peu d'aéronautique. Et j'ai aussi été directrice de la stratégie. Donc, quand on fait ça, on s'occupe plus de préparation de l'avenir et de recherche et technologie pour les armées. Et si je suis devenue ingénieure, moi, c'est, pour répondre un petit peu comme Thierry, c'est d'abord par goût des mathématiques et de la physique, puis plus précisément un mélange d'envie de piloter et de mieux comprendre les étoiles. Donc c'était un mélange d'astrophysique et d'aéronautique qui m'a conduite à être ingénieure.
Et moi, c'est Pierre Gatineau, nettement plus humble et modeste que les deux prédécesseurs, puisque je ne suis que journaliste, et que ça fait plus de 15 ans que je travaille à Intelligence Online, qui est la revue spécialisée sur les questions d'espionnage et de renseignement, avec une prédilection personnelle qui effectivement est de l'ordre de la vocation, sans doute d'amour de Tintin et de d'inspecteur Gadget pour les bidouilleries, et qui fait que je m'intéresse toujours alors pas tant à la technologie pure que comment on la manipule, donc et notamment dans le monde de l'espionnage, donc qui fait quoi en matière technologique, et aussi par exemple sur les satellites espions, qui fait quoi, mais aussi qui pose plus des questions politiques, donc là où je suis encore un minimum compétent et non pas des questions purement technologiques, où je suis un pur béotien.
Pierre Gatineau, Caroline Laurent, Thierry Rousselin, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio et nous allons parler satellites et espionnage.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Thierry Rousselin, j'ai envie de tout de suite vous poser une question suite à cette petite introduction. J'aimerais savoir si l'espace, c'est le Far West, s'il y a des lois qui s'appliquent là-haut ou s'il n'y a absolument aucune règle.
Ce n'est pas le Far West. Il y a, depuis 1967, un traité de l'espace qui fixe les grandes lignes de ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire dans l'espace. Alors, il faut bien voir que ce traité, 1967, il n'y a que deux puissances spatiales réelles, l'Union soviétique et les Américains. Les Soviétiques veulent pouvoir surveiller les Américains veulent pouvoir surveiller les Soviétiques. Donc, ils sont parfaitement d'accord sur le fait que regarder depuis l'espace, opérer depuis l'espace doit être libre, puisqu'ils veulent tous les deux pouvoir regarder le territoire adverse. Et comme ils sont les deux seules vraies puissances spatiales, tous les autres pays des Nations Unies vont ratifier ce traité qui, en fait, a été d'abord et avant tout écrit par ces deux-là. Donc on est sur ces principes-là, qui existent donc depuis maintenant presque 60 ans. Ça permet à n'importe quel puissance, n'importe quel pays, de pouvoir mettre des moyens en orbite et de pouvoir permettre à ses industriels ou opérateurs privés de mettre des moyens en orbite. Alors évidemment, il y a eu depuis un certain nombre de documents complémentaires qui ont permis de prendre en compte des choses qu'on n'avait pas envisagées au départ. L'idée que l'espace pouvait devenir une poubelle, grosso modo, avant les années 90, mais personne n'y a songé. Parce que l'espace était vide et infini. On le croyait, en tout cas. Et personne, à l'époque, ne parlait de constellations de 10 000 satellites. Donc, il y a eu un certain nombre de textes complémentaires, mais, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il reste toujours un certain nombre de flous. La limite de l'espace, qu'est-ce qu'on fait dans la bande entre 100 et 300 km ? Et donc, il y a beaucoup de difficultés actuellement, vu l'état des relations internationales, pour légiférer de façon moderne par rapport à quelque chose qui a complètement changé de nature dans les 10 dernières années, avec les milliers de satellites qui sont lancés.
Parce que de mettre une limite, ça permet de ne pas être trop proche, j'imagine, du sol, ce qui pourrait être considéré comme une agression militaire, et en même temps d'être dans un lieu où tout le monde se partage l'espace. Si je me souviens bien, dans ce traité, il y avait aussi un aspect clairement militaire, à savoir l'interdiction de stockage d'armes, notamment nucléaires, peut-être exclusivement nucléaires.
Absolument.
Dans l'espace. Donc ça tient toujours aujourd'hui ?
Ça tient toujours aujourd'hui. Alors, il y avait à la fois l'interdiction d'avoir des activités offensives, il y avait l'interdiction, effectivement, de stocker des engins. L'espace est quand même un milieu fragile et dangereux. Donc, c'est aussi par protection qu'il fallait mettre en place un certain nombre de sauvegardes. Après, aujourd'hui, on l'a vu avec les diverses manœuvres anti-satellites. En 2019, les Indiens ont fait sauter un de leurs propres satellites pour montrer qu'ils étaient capables de le faire.
Depuis la Terre ou depuis l'espace ?
Depuis la Terre, en l'occurrence. À chaque fois, ça crée des débris qui partent dans tous les sens, avec le risque que régulièrement les spécialistes de la surveillance de l'espace expliquent de possibilités de réaction en chaîne sur des débris. Et je le répète, tout ça était assez peu pris en compte tant qu'il y avait très très peu de satellites. Maintenant, si on regarde par exemple ce qu'on appelle les orbites LEO, les orbites basses, ça commence à devenir extrêmement dense en termes de présence de satellites. Donc il faut légiférer.
Pierre Gatineau ?
Oui, non, je me demandais par rapport au traité de l'espace de 67, qu'est-ce qui est exactement dedans sur les activités offensives ? C'est depuis la Terre, on peut être offensif dans l'espace ou c'est que d'être offensif entre satellites qui est interdit ? Est-ce qu'un satellite a le droit aujourd'hui d'aller viser un autre satellite ou est-ce que c'est...
Thierry Rousselin ?
Non, théoriquement, tout est interdit. Alors, ce qu'on a beaucoup vu ces dernières années, on en a parlé dans la presse, c'est les reniflages. Un satellite va venir s'approcher très très proche de son copain, qui est en fait pas très très copain, pour soit l'observer, soit pour récupérer des informations sur les fréquences, sur les communications, soit pour le brouiller. Donc, on a vu ce genre de choses, mais on a...
Ça, c'est pas régulé aujourd'hui.
Voilà, c'est pas du tout régulé. Ça. Mais on n'a pas vu quelqu'un taper le satellite de l'adversaire à ce stade.
Caroline Laurent ?
Oui, je voulais rajouter quelque chose, parce que même brouiller un autre satellite, ce qui est presque plus moins offensif, c'est interdit aussi, mais de même qu'au sol, c'est interdit de brouiller des signaux GPS. Il y en a qui le font, mais c'est interdit. Donc c'est un acte de guerre.
Donc le brouillage, lui, est considéré comme
un
acte offensif.
C'est comme un acte offensif. Et je voulais rajouter quelque chose, parce que vous avez parlé de Far West. Dans le domaine des fréquences dans l'espace, c'est quand même un tout petit peu le Far West. Pourquoi ? Parce que quand on a un objet dans l'espace, il émet, il envoie des informations, ou même ça peut être un satellite de télécommunication qui est là pour que vos propres informations partent et reviennent, et il travaille dans une certaine fréquence. Et quand on met en service un satellite, on déclare, on fait des filings à l'Organisation internationale des télécommunications, et un petit peu comme une carte grise de véhicule, on dit « bon voilà, je vais travailler à cette fréquence-là ». Et il y a des fréquences qui sont allouées à certains types de missions. Mais après, si vous faites autre chose, que vous faites un peu n'importe quoi, que vous émettez trop fort, que vous brouillez les autres, on est dans un monde de gens jusqu'à présent très bienveillants, où l'Organisation internationale des télécoms dit « Ah, bah, vous n'êtes pas très gentil, tiens, là, vous avez un petit peu brouillé, est-ce que vous ne pouvez pas baisser un peu ? Est-ce que vous ne pouvez pas ne pas émettre quand vous passez au-dessus de telle zone ou sous tel autre satellite de télécommunication ?» Et ceux qui ne le font pas, il y en a de plus en plus qui se comportent un petit peu comme des bandits. Et c'est notamment le cas, on le sait un peu tous, de la constellation Starlink qui arrive, qui est partout, qui émet partout, qui brouille un peu des satellites de SES, de Telsat ou d'autres. Et la régulation est très est faite de gens bienveillants, en fait.
Mais pas faite pour des mendis.
Et en ce moment, c'est quand même un tout petit peu le Far West, justement, à cause des...
Starlink, juste pour te préciser, c'est la constellation d'Elon Musk qui permet d'avoir Internet un petit peu partout.
Qui a envoyé déjà 10 000 satellites dans l'espace, alors que depuis le début de l'histoire de l'espace, il y avait 12 000 satellites. Donc en quelques années, il en a envoyé autant que tout. Et donc il y en a tellement que ça brouille un peu tout le monde, ouais.
Et on peut pas, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas un gendarme
Non, la seule chose qu'on pourrait faire, mais pour l'instant on ne l'a pas fait, c'est lui dire, écoutez, non, vous êtes interdit d'émettre en France. Les Chinois le font. Nous, on ne l'a pas fait. On laisse les gens acheter chez Boulanger, même, des antennes Starlink, parce qu'il y a des moments où c'est bien utile.
Est-ce que ces satellites, ces constellations de satellites peuvent être considérées, elles aussi, comme des satellites espions, d'une certaine manière ? Ou peut-être de manière plus générale, quel est l'avantage pour l'espionnage d'avoir un satellite dans l'espace, plutôt que d'être...
Alors, le satellite, c'est un objet qui est au-dessus de notre tête, au-dessus de la Terre, tout le temps, et qui va partout. Donc, un autre moyen de faire de l'espionnage, ce serait par exemple un drone, un avion ou même un drone télécommandé, c'est assez bien, mais c'est au-dessus d'un endroit, c'est un peu plus près, et d'un endroit unique. Alors que le satellite, il va faire le tour de la Terre, un petit peu comme si on dessinait des quartiers d'orange, et il va faire tout le tour de la Terre en une journée, en 24 heures, et puis il va recommencer le lendemain, et ça 365 jours par an, et partout sur la Terre. Donc c'est un objet qui est tout le temps là, et qui peut permettre de faire des images, d'écouter ou autre chose, ou toute autre chose, n'importe où sur la Terre, tous les jours. Mais évidemment, il y a un inconvénient, c'est qu'il est... en général, il n'est pas à 100 km, parce qu'en 100 km, il y a encore beaucoup de frottements. Il est plutôt entre 400 et 800 km, si c'est pour faire des images ou recueillir des renseignements électromagnétiques.
Juste plus des frottements, pour préciser, quand on est à 100 km, ça veut dire qu'il y a encore de l'air, il y a encore de l'atmosphère encore sur la Terre, ce qui fait que si on fait tourner quelque chose, pour pas qu'il tombe, eh ben, il faut qu'il y ait une propulsion. Donc,
il
faut beaucoup d'énergie. Ouais. Alors que si on est plus haut, là, aux altitudes
avancées... À 800 km, il faut pratiquement pas d'énergie pour rester, en fait. Il faut même
retomber.
Il faut être à la bonne vitesse, mais une fois qu'on l'a, et ça, c'est la fusée qui la porte, normalement, la vitesse, on bouge pratiquement pas. Donc c'est un objet très différent et très complémentaire de ce que peut être un camion d'écoute, un drone d'espionnage, parce qu'il est là tout le temps, mais il passe très vite. Donc non seulement il est haut, donc il faut des très bons instruments pour voir ou pour écouter, mais aussi par rapport à un drone, c'est le contraire, il passe très vite. Donc il passe partout sur la Terre, mais très vite. Donc il ne reste que 10 minutes au-dessus d'une zone. Donc, ce n'est pas non plus un objet qui peut permettre de surveiller toute la journée un endroit. Et c'est là que les constellations arrivent. C'est parce que pour compenser le fait qu'il passe très vite, il en faut plusieurs. Et si les plusieurs deviennent plusieurs dizaines, on finit par avoir quelque chose qui ressemble à de la permanence. Et Starlink, aujourd'hui, ne fait que des télécommunications, mais il va déjà commencer à mettre sur ses plateformes... tout un tas d'autres instruments, et c'est là qu'il fait de l'espionnage, en fait. L'espionnage, bon, il peut déjà transmettre des informations à des gens qui ont besoin de renseignements, donc de ce côté-là, il participe à la mission de renseignement, mais surtout, il va commencer à embarquer d'autres types d'instruments, parce que c'est comme si... on a plein d'objets qui vont très vite, mais il y en a tellement que c'est comme si on avait une énorme base de surveillance de toute la Terre. En fait.
Thierry Rousselin, qu'est-ce qu'on arrive à voir avec les satellites aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose qui fait la taille d'un stylo, par exemple, au sol?
Alors, la question est intéressante parce qu'elle est quand même la question systématique autour de la capacité des satellites... à espionner, immédiatement, on pense quel est le plus petit détail qu'on puisse voir. Alors, je dis ça en ouverture parce que, en fait, l'espionnage recouvre tout un tas de domaines. L'observation, l'écoute, l'interception de signaux, la localisation, le brouillage de localisation, etc. Et on a souvent tendance à surtout regarder la partie visible, parce que c'est celle qu'on a sûrement le plus vue dans des fictions, parce que c'est très illustratif. Alors, pour répondre à votre question, quand le premier satellite espion amène la première image, c'est en août 1960, le plus petit objet qu'on puisse voir, la taille au sol du pixel, c'est 12,90 m, 40 pieds. Cette première image d'un satellite qui s'appelle Discoverer 14 de la CIA, elle est dans le domaine public aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez deux pistes qui se croisent sur un aérodrome dans le nord-est de la Sibérie, qui était le grand aérodrome stratégique des soviétiques de l'époque. Aujourd'hui, la 11e génération de satellites militaires équivalents, qui est maintenant géré par un organisme qui s'appelle le NRO au sein de la défense américaine, la résolution, c'est 7 cm. Alors, pourquoi je peux me permettre de dire c'est 7 cm grâce à Donald Trump? En 2019, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu une explosion juste avant le lancement d'un lanceur iranien sur son pas de tir. Et il y avait un satellite KH-11 qui passait au-dessus de l'Iran quelques heures après, et qui a fait une image. Et immédiatement, le NRO a récupéré cette image, l'a amenée à la Maison Blanche, et Trump était tellement content de cette image qu'il l'a tweetée. La chose qu'il ne faut absolument jamais faire, puisque à partir du moment où l'image a été tweetée, même en tenant compte de la compression qui est appliquée à chaque fois que vous uploadez une image sous Twitter, c'était un jeu d'enfant de retrouver l'ensemble des informations et de pouvoir vérifier qu'effectivement la résolution c'était 7 cm. Donc pour le stylo, c'est compliqué.
Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'aurait jamais dû le dire à personne, et c'est exactement « Jamais dit à personne », le titre de la chanson de Camille Yembe que nous allons écouter maintenant.
Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Qu'en sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. Un nouveau problème, un nouveau petit aimant s'installe à son tour dans l'appart, dans le salon. Je passe de temps en toi, de virage en virage, drôle de vie incertaine. Vol à l'étalage pour une belle paire d'Adidas, ça fait beaucoup trop de semaines. Qu'un nœud dans l'œsophage, jouer l'entourage, je crois que j'avais perdu la tête. Jamais, jamais dit.
Nous sommes toujours en compagnie de mes invités, le journaliste Pierre Gatineau, le professeur spécialiste du renseignement géospatial Thierry Rousselin et la directrice des systèmes orbitaux du CNES Caroline Laurent et bien entendu le public du studio 621.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
J'ai l'impression que vous aviez une question, Pierre Gatineau.
Oui, non, ça me faisait penser, moi qui travaille du côté journalistique sur les questions de renseignement depuis l'espace, depuis longtemps. Pendant longtemps, tous vos interlocuteurs, que ce soit dans l'État français, mais effectivement aux États-Unis, on parlait de Donald Trump ou dans d'autres puissances de renseignement géospatial. Effectivement, la qualité de l'image finale qu'on apportait aux dirigeants politiques était un peu la seule manière de mesurer là où on en était en tant que pays dans cette course-là, dans cette compétence-là de renseignement depuis l'espace. Et par rapport à ce que disait Thierry Rousselin tout à l'heure par rapport à l'image du NRO, ma question était pour vous deux, mais c'était plus... Est-ce qu'aujourd'hui encore, cette question de la résolution de l'image, donc d'avoir... C'est un peu comme dans les iPhones, pendant un moment, vous savez, dès que vous achetiez un téléphone portable avec un appareil photo, on vous disait la résolution de l'image, comme si c'était un argument commercial majeur. Et aujourd'hui, en fait, On arrivait à des tels niveaux de détails qu'on ne l'achète même plus pour ça. On l'achète au contraire pour les autres fonctionnalités que l'appareil photo permet. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là? Est-ce que la résolution est toujours le meilleur outil de calcul de puissance, entre guillemets, de la puissance politique?
Alors, avant de vous donner la parole pour la réponse, Caroline Laurent, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est le NRO?
Le NRO, donc l'agence de renseignement américaine spécialisée sur l'observation spatiale. Et pour le détail, je crois qu'elle n'a été déclassifiée qu'en 1993. C'est l'agence spatiale, donc qui était beaucoup, ce qui est vachement intéressant, ce que ça dit sur le renseignement depuis l'espace, elle était beaucoup plus secrète que la CIA ou que la NSA. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les autres agences étaient connues et le NRO était connu des initiés, mais était pour le gouvernement la dernière agence, même après la fin de la guerre froide, dont il ne reconnaissait pas l'existence.
Caroline Laurent, alors cette résolution.
Alors la résolution, c'est important, mais on est un peu arrivé, c'est un peu comme les portables, on est un peu arrivé à la limite de la physique, et une fois qu'on voit des humains, en fait, qu'on se dit, tiens, là, il y a quelqu'un, c'est bon, ça suffit.
Son stylo,
puis,
on s'en fiche.
Et puis maintenant, ce qui compte, oui, le stylo, on s'en fiche. Bon, savoir de quelle couleur il est habillé, peut-être, mais surtout, ce qui compte pour avoir de bons renseignements et faire du bon espionnage, c'est la fusion de plein de types de données différents. Et rien que pour partir d'une image ou d'une photo, déjà, quand vous avez deux satellites, soit un satellite qui prend deux images à un moment différent, ou deux qui prennent une image en stéréo et que vous avez de la 3D, vous avez, même avec la même résolution, une information très différente et qui apporte beaucoup de choses. Vous avez la hauteur, vous avez le fait que c'est un arbre parce que sinon ce serait moins haut. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Il y a les mesures thermiques qui sont faites en infrarouge qui vous disent « Ah mais là c'est chaud et là c'est froid. » Donc en fait, cet avion-là, il est chaud, donc il vient de se poser. L'autre, il est froid, donc en fait, ça fait 3 jours qu'il est là. Et puis ça apporte plein de choses, l'infrarouge thermique.
Par exemple, est-ce qu'on peut détecter des tests nucléaires?
Oui. Ben oui, c'est comme ça qu'on se dit, là, il y a de l'activité nucléaire, puisque c'est chaud. On peut mesurer la température. Et puis après, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de constellations. Ce qui compte aussi, c'est la revisite, puisque les satellites passent vite. C'est pas seulement la résolution, c'est de l'avoir une quasi-permanence pour avoir de la surveillance. Et donc, c'est là qu'avoir plein de satellites, ça devient plus important qu'avoir un satellite.
Et est-ce que
très,
si on a une bonne constellation, on peut être comme dans Ennemi d'État, film de 1992, avec Will Smith et Gene Hackman, où on voyait presque en temps réel les gens se faire suivre sur des satellites de...
Oui, alors
on disait full motion vidéo de mémoire, mais par vidéo presque plus que par image.
C'est un petit peu exagéré. C'est comme,
donc on n'y est toujours pas, c'est-à-dire que le film reste...
C'est comme la série 24 heures, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, c'était tout petit peu exagéré, parce qu'on peut pas... Non, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est dire c'était quoi l'image il y a 3 jours devant ma porte. Pour ça, il faut vraiment une permanence totale. Je pense que les Américains y arriveront une fois qu'ils vont mettre des caméras sur tous les Starlink, justement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore des milliers de satellites d'observation, mais il va y avoir.
Thierry Rousselin, il s'est passé des choses au Venezuela en fin d'année, et je voulais vous demander si l'espionnage par satellite a joué un rôle quelconque dans la capacité qu'ont eu les États-Unis à faire leurs opérations là-bas.
Alors, il n'a pas joué un rôle quelconque, il a joué un rôle important, mais il a été un des moyens parmi beaucoup d'autres, moyens satellitaires, moyens aériens, moyens navaux, moyens sol. Une des principales leçons de cette opération-là, à l'image de ce qu'on a vu également l'année dernière lors des frappes israéliennes
sur l'Iran,
c'est le grand retour du renseignement humain. C'est pas avec un satellite que vous connaissez à quelle heure Maduro mange. C'est pas avec un satellite que vous savez où il ira dormir ce soir. Donc, ce qui a fait l'efficacité, qui a été assez impressionnante de cette opération, c'est justement la conjonction de toute la panoplie, et les satellites ont joué absolument leur rôle. On s'est amusé, entre guillemets, à essayer de reconstituer la chaîne d'activité spatiale américaine autour de cette thématique. Alors, pourquoi on peut y arriver? Alors, bien évidemment, les satellites militaires américains, ils ne vous donnent pas les informations et il n'y a pas moyen d'accéder à leur catalogue. Mais aujourd'hui, la défense américaine est le principal client de tous les opérateurs de satellites commerciaux, optiques, donc qui prennent des images que vous pouvez regarder comme on regarde avec nos yeux, c'est Ventor, Black Sky, Planète, mais aussi des satellites radars. Il y a deux opérateurs, Capella et Umbra. Et ces opérateurs-là, la défense américaine est devenue tellement importante dans leur activité que ça se voit dans le catalogue. C'est-à-dire, quand vous regardez, quand vous analysez les prises de vue dans le catalogue commercial, ils ne peuvent pas cacher toutes les images qu'ils prennent pour les militaires parce qu'il n'y aurait quasiment plus rien.
C'est ça qu'on appelle le catalogue, c'est l'ensemble des images qui sont prises.
Absolument. Et quand vous regardez le catalogue de tous ces opérateurs, ce qu'on a fait cette semaine, bah ce que vous voyez, c'est les patterns de surveillance qui existaient pendant l'administration Biden, qui se sont poursuivis jusqu'à juillet. En fait, jusqu'à juillet, l'administration Trump regarder la zone exactement comme l'administration Biden l'a regardé. En septembre, ça monte. En octobre, d'un seul coup, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils font des couvertures 2D, des couvertures 3D, des couvertures radar, des couvertures optiques. Là, il y a vraiment la préparation de l'opération qui est en cours. Et ensuite, on voit la montée en novembre. Et le climax d'observation, c'est le 26 décembre, et là encore, dans les conférences de presse, les Américains ont dit « Oui, en fait, on aurait dû faire l'opération la semaine dernière, mais il y a eu un rouge météo, on n'a pas pu la faire. » Et tout était calé, et on voit dans les pics d'observation par les satellites commerciaux américains que le 26, tout était calé.
Pardon, Pierre Gatineau. Ce qui est passionnant, c'est aussi qui regarde quoi. À l'instant T, c'est un truc qui est... Je sais, nous, on est passionnés, par exemple, si... moi, je prends toujours cet exemple, mais vous aviez eu un mémorial français en mémoire des victimes du DC-10 du TA qui avait été détruit au Niger par un attentat, au-dessus du Niger, par un attentat perpétré par la Libye. Et ce mémorial avait été vandalisé. Mais il est au milieu du Sahara, si vous voulez. Il n'y a rien. Et juste de savoir qui a regardé quelques semaines avant d'être vandalisé, s'il n'y avait pas une activité, s'il n'y avait pas quelqu'un, pourquoi quelqu'un irait prendre une image du milieu du Sahara qui a des résolutions, comme on le disait, de quelques dizaines de centimètres. Et le seul était un opérateur chinois qui était sous contrat avec les Russes de Wagner, des galaxies paramilitaires russes. Donc vous vous dites, ah c'est rigolo, ils se sont fait une préparation, mais ils ont dû acheter sur le marché commercial, dans les catalogues, comme un catalogue de jouets club, quoi. Ils ont dû acheter leur image en amont pour pouvoir aller faire leur forfait. Donc en fait, même savoir qui regarde quoi est un truc complètement passionnant.
Caroline Laurent, du coup, technologiquement, est-ce que ça signifie que tout le monde a accès aux satellites qui sont partout, en tout cas les commerciaux? Et militairement, est-ce que la France, par exemple, a une avance, un retard? Est-ce qu'il y a des aspects de ce renseignement-là sur lesquels, technologiquement, on est peut-être plus en avance que d'autres?
Alors, tout le monde n'a pas accès à tout. Déjà, tout le monde n'a pas accès aux technologies militaires et aux satellites militaires qui sont toujours un peu meilleurs que les autres. Ils sont toujours un peu meilleurs en résolution, ils sont toujours un peu meilleurs en termes de bande de fréquence. Par exemple, en général, ils ont de l'infrarouge et différents types d'infrarouge, ce que n'ont pas les satellites commerciaux. Mais,
infrarouge, c'est ce qui regarde les températures.
Oui, c'est dans la bande infrarouge, au lieu d'être visible. Donc visible, c'est on fait une photo. Infrarouge, on mesure la température. Et même les militaires qui ont des systèmes très performants, il n'y en a jamais assez, puisque ce qui compte, c'est la diversité de l'information et les différents types d'informations, et puis la revisite, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs images au même endroit et d'en avoir tout le temps. Et donc, même les militaires, même les Américains qui ont beaucoup de systèmes, ils achètent massivement toutes les données commerciales. Et le DOD est le premier client des systèmes français Pléiade, qui sont vendus par Airbus. Ça reste toujours le premier client, et le deuxième, ça doit être les Chinois. Donc, on voit que les militaires, même américains et chinois, ils ont besoin des données de tout le monde. Après, on peut quand même avoir accès à beaucoup de données. Et est-ce que la France est en retard technologiquement? Moi, je ne le crois pas. Je pense que dans le domaine spatial, on est en pointe. On a après, pour rester en pointe, il faut alimenter notre industrie, il faut lui passer des contrats, il faut la pousser un peu, il faut lui acheter des systèmes très performants pour qu'elle continue à avoir de bons ingénieurs qui travaillent dans des bureaux d'études. Là, en ce moment, on a un petit problème budgétaire en France, et puis l'espace est important, mais n'est peut-être pas notre première priorité, ce qui fait que on commence à être peut-être dépassé par nos voisins, les Allemands, les Italiens, qui avant étaient plutôt moins bons, commencent à atteindre notre niveau technologique. Mais je pense qu'on a été très bons.
Et sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que, parce que pour le coup, il y a eu une audition il y a quelques mois, je crois, du directeur du renseignement militaire qui justement disait on est sans doute allé trop dans l'ultra haute technologique sur nos dernières commandes et pas assez sur la permanence. Est-ce que nous, par exemple, on n'a pas pris du retard, entre guillemets, pour vous deux, hein, mais la question, mais est-ce qu'on n'a pas pris du retard sur la question des constellations, d'observation plutôt que de vouloir le meilleur, la meilleure résolution. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la meilleure résolution, mais sur un satellite ou deux, et pas sur la constellation.
On a lancé quand même cet été 4 satellites qui font de l'imagerie, qui font un peu de revisite. On a pris du retard sur les constellations, parce qu'on a pris du retard sur les constellations de télécommunications, parce qu'on n'a pas eu d'opérateurs de télécommunications, d'Orange ou de Telefunken ou je ne sais autre, qui a commandé des constellations. Et comme il n'y en a pas eu de commandées, nos industriels ne les ont pas fabriquées. Donc en fait, on a pris du retard sur le coût, sur le fait de fabriquer des satellites à la chaîne, un par jour. Ça, on ne sait pas encore le faire. Mais parce qu'ils n'ont pas été commandés. Si vous ne commandez pas des chaussures, les fabricants de chaussures ne savent plus les fabriquer. Si vous ne commandez pas des satellites tous les jours, nos industriels, ils savent fabriquer des satellites très lentement, et puis un par mois.
En fait, nous, on reste un artisanat d'art. On n'est pas encore à l'industrie SpaceXienne.
Oui, c'est ça. C'est un peu une question d'opérateur, d'argent. Mais en revanche, on a quand même lancé 4 petits satellites cet été, donc on sait faire de la revisite.
Thierry Rousselin, c'est un peu ce que vous pensez aussi sur le New Space, qu'on appelle le New Space.
Je pense que ce qu'on appelle le New Space, alors c'est un peu une tarte à la crème, mais ce que ça fait pour le renseignement, c'est vraiment un changement de perspective. On était, depuis les années 60, dans cette logique que chaque nouvelle génération de satellites devait être un peu meilleure que la précédente, voire franchement meilleure que la précédente. Ce qui veut dire que, en fait, le coût des missions ne diminuait pas vraiment. Quand on regarde les générations de Spot 1 à Spot 5, puis Pléiade, ou de Hélios 1, Hélios 2, CSO, on reste, alors tu as parlé d'artisanat d'art, c'est peut-être un terme excessif, mais on reste sur un satellite, deux satellites, dans le meilleur des cas, 3, et même les Américains du NRO, c'était 5-6. Les formidables KH-11, c'est 5-6 satellites maximum. Arrivent les gens du New Space, qui dans un premier temps disent « le militaire, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va alimenter les analystes financiers, on va faire du business, et pour ça, on va faire des petits satellites qui seront peut-être moins performants que les vôtres, et sûrement bien moins performants que les vôtres, mais qui donneront des indicateurs économiques qu'on pourra recaler tous les jours. Donc il faudra qu'il y ait plein de mesures. » Avec nos formidables satellites, quand le Mollah Omar traversait la frontière afghane, il fallait qu'on ait beaucoup de chance pour le voir, parce que le satellite, il passait 1 minute 30 par jour maximum au-dessus de cette zone. 1 minute 30 sur 24 heures. Il fallait vraiment avoir beaucoup de chance pour le voir. Les gens du New Space arrivent et disent, nous, ça sera 5, 10, 15, 20 images par jour.
Du même endroit.
Et comme on veut alimenter des analyses financières, on veut compter des containers, on n'a pas besoin de 30 cm. Et dans un premier temps, ils tiennent ce discours-là, et les gens du spatial traditionnel les regardent en disant « vous êtes des petits joueurs ». Et en fait, ce qu'ils font, c'est remettre au centre la résolution temporelle, donc la permanence d'observation, dont on savait qu'elle était importante, mais on considérait que ce n'était pas aux satellites de la fournir, c'était plutôt à l'aérien et aux autres moyens de fournir la résolution temporelle. Et eux, ils nous ont démontré que ce n'était pas... Alors, ce qui est rigolo quand même, c'est que leur business model, il n'a pas marché. Que ce soit Planète, que ce soit Skybox, que ce soit Satellogique, etc. Ils se sont tous plantés économiquement. Et ils se sont sauvés comment? En revenant vers les militaires. Et maintenant, le principal client pour Planète, on le voit là, sur les 2 dernières années, le changement total, c'est 55% business défense.
Oui, mais quand même... Je voudrais quand même ajouter quelque chose. S'il n'y en a pas les militaires qui ont des super objets à la pointe technologique, il y a des informations qu'on n'a pas. Parce qu'il y a des informations, on verra tous les conteneurs, mais il y a voir des têtes, voir des gens. aucun satellite très bas avec une caméra pas chère et pas la bonne résolution ne le verra. Et en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle. Mais avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne pourra pas récupérer toutes ces informations? Et non, en fait, l'intelligence artificielle, elle donnera des probabilités qu'il se passe quelque chose. Mais une information qui n'est pas contenue dans ce qu'on nous a transmis, elle ne va pas être créée. Personne ne va la créer. Donc il y a quand même toujours besoin, moi je suis persuadée qu'on a besoin, et que ce soit les militaires pour ce type d'instruments-là, ils aient quand même des systèmes de très haute performance en plus de la revisite. Un petit peu comme dans le domaine scientifique, si on veut maintenir la France à son niveau d'excellence scientifique, et il y a de très bons scientifiques pour tout ce qui est physique de l'univers et astrophysique, il faut continuer à faire des instruments qu'on met peut-être 10 ans à fabriquer, qui sont à la limite de la physique, qui sont extrêmement complexes, mais il faut le faire parce que ça maintient l'excellence des ingénieurs.
Eh bien, avant de passer aux questions du public sur ces questions d'espionnage, nous allons évidemment écouter Skyfall d'Adèle. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn. Sky fall and it crumbles. Nous sommes toujours avec mes invités, la directrice des systèmes orbitaux du CNES, Caroline Laurent, le professeur spécialiste du renseignement géospatial Thierry Rousselin et le journaliste Pierre Gatineau et évidemment le public du studio 621 qui s'apprête à poser ses questions.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Nous avons une question d'Agathe.
Est-ce que l'IA est déjà utilisée dans l'espionnage via satellite et quelles pourraient être les conséquences d'une telle utilisation ?
Thierry Rousselin ?
L'IA est déjà très largement utilisée, aussi bien à bord des satellites qu'au sol, pour tout un tas de tâches techniques. Par exemple, lorsque vous prenez une image pour prendre en observation, vous avez malheureusement de bonnes chances que entre votre satellite et le sol, il y a des nuages. Donc vous risquez de prendre beaucoup d'images qui ne servent à rien, puisque de toute façon, vous allez imager le toit des nuages. Et si vous prenez ces images-là et que vous les redescendez au sol, c'est du volume, c'est du temps perdu, etc. Vous commencez à avoir désormais, à bord des satellites, des petits outils qui analysent très rapidement par IA l'image pour voir si elle a plus de X% de nuages. Et si c'est le cas, elle est immédiatement détruite. Pas besoin de la descendre au sol puisque de toute façon, elle ne sert à rien. Donc vous avez actuellement un usage de l'IA qui est d'abord un usage technique. Maintenant, ce qu'on commence à voir, mais c'est plus pour les 5 prochaines années, c'est des trains de satellites, des constellations de satellites dans lesquelles un premier satellite va passer, va prendre une image, souvent avec une résolution moyenne et un champ assez large à observer. L'IA va détecter les objets intéressants, elle va les pointer, passer l'information au satellite qui suit, et le satellite qui suit, avec son instrument beaucoup plus puissant, va directement aller regarder l'objet. Alors, les conséquences que ça a de faire comme ça, c'est qu'il n'y a plus d'hommes dans la boucle. Actuellement, ce genre de choses, on appelle ça du tip and cue, on le fait. Sauf que le premier satellite passe, ça passe par le sol. Au sol, il y a quelqu'un qui dit « oui, il faut regarder à tel endroit ». Il y a un homme dans la boucle. On va vers des systèmes totalement automatisés.
Nous avons une deuxième question de Marie.
Oui, merci. Alors ma question c'est, donc, est-ce qu'une Europe de l'espace est possible ?
Et je crois que Florence a une question qui est apparentée, donc nous vous écoutons.
Effectivement, donc je voulais savoir quels sont les acteurs européens importants ? Vous avez parlé de la France, de l'Italie, de l'Allemagne.
Caroline Laurent ?
Ouais, est-ce que l'Europe de l'espace, elle a existé en fait grâce à l'Agence spatiale européenne et au rassemblement des budgets de tous les Européens autour de grands programmes. Il y avait Ariane qui était un bel exemple de réussite européenne, mais aussi des systèmes d'observation. Et puis on a eu des industriels européens. Il y a Airbus et Thales qui sont français, mais qui en fait sont européens et qui ont des succursales en Allemagne et en Italie. Les grands industriels européens sont aussi liés aux grandes puissances européennes qui ont consacré de l'argent à l'espace. Et donc, on retrouve la France, l'Allemagne, l'Italie, mais de plus en plus la Pologne, l'Espagne et d'autres pays. Et ce qui est un petit peu dommage, mais qui est peut-être inévitable, c'est que ça marchait d'autant mieux que la France était devant, c'était un peu la locomotive. Et donc, nous, on trouvait ça très bien d'être la locomotive. Et puis, on récupérait... Bon, l'argent de tout le monde repartait partout, mais on était quand même la locomotive d'une véritable Europe de l'espace. Après, quand les Allemands et les Italiens ont commencé à vouloir, eux aussi, avoir une certaine souveraineté, on ne peut pas tellement leur en vouloir, parce que nous aussi, on veut être souverain. Souverain, ça veut dire, si je veux... et que je m'en donne les moyens, je veux être capable de faire tout seul un satellite de renseignement, je veux être capable de décider tout seul de lancer des satellites de télécommunication, pas être dépendant de celui des Français ou des images que veut bien me donner la France. Et donc, comme ils ont eu ce désir de souveraineté et une puissance financière importante, ils sont en train d'atteindre notre niveau. Et le fait d'être plusieurs au même niveau, bah, ça devient plus compliqué de construire l'Europe de la défense parce qu'on est concurrent, en fait. Elle existe, il y a toujours l'ESA. Mais voilà, si tout le monde est aussi bon, c'est plus difficile de tout partager.
Pierre Gatineau.
Juste pour compléter, oui, ça se fait dans un environnement de plus en plus contraint. C'est-à-dire que vous avez plusieurs phénomènes qui est... la pression de la Russie à l'est de l'Europe, avec des pays de l'est de l'Europe. On pense par exemple à la Finlande, qui a maintenant un des grands champions de l'observation radar est finlandais, mais avec des contrats en Pologne, avec des contrats en Allemagne, avec des contrats beaucoup de contrats en Ukraine. C'est l'un des principaux soutiens en renseignement de l'Ukraine. C'est aujourd'hui un opérateur finlandais. Donc c'est aussi intéressant de voir cette contrainte-là qui vient de l'est de l'Europe par la Russie. Et vous avez la contrainte qui revient sur la souveraineté. Il y avait beaucoup de pays aussi qui se reposaient sur des images commerciales américaines ou sur des flux qui venaient des États-Unis et qui sont aujourd'hui des pays qui réfléchissent tous à comment, si un jour Donald Trump me fait comme à l'Ukraine en mars 2025, ferme le robinet de tous les soutiens et que moi je deviens aveugle, est-ce que je dois compter que sur les Français qui sont aussi versatiles sur ces questions-là ou qui ne veulent pas humilier la Russie pendant que d'autres pays sentent une certaine pression à leurs frontières. Donc vous avez aussi des pays, enfin, ça rejoint ce que vous disiez, c'est des pays qui ont envie d'avoir, eux, leur propre robinet, histoire de ne pas dépendre de... C'est un peu comme les servitudes en copropriété, de dépendre des tuyaux des autres.
Et vous allez comprendre peut-être, avec ce qu'on va écouter maintenant, pourquoi je posais la question de cette résolution des images qu'on peut avoir de l'espace et éventuellement des films un jour. Je vais vous faire écouter un petit son mystère. On va l'écouter une première fois et après je vous demanderai éventuellement de déterminer de quoi il s'agit. Voici le son. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ce qu'on entend là ? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ?
Bah, une conversation cryptée ou pas dans la bonne bande de modulation de fréquence ou...
C'est effectivement une conversation écoutée, mais il y a quelque chose d'assez particulier avec ce qu'on entend. Alors comme moi j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, ce qu'on est en train d'entendre là, je vous propose d'écouter Pierre Mahé, qui est chercheur en audio et traitement du signal, qui nous a enregistré une explication de ce que vous venez d'entendre.
Le son que vous venez d'entendre est l'enregistrement d'un échange entre deux personnes qui discutent dans une salle captée depuis l'extérieur du bâtiment. Enregistrer des personnes à distance, c'est un peu l'outil idéal pour un espion. En 1947, le gouvernement soviétique contacte Léon Térémine, un physicien et ingénieur de Saint-Pétersbourg, pour qu'il conçoive un système d'espionnage qui permettrait d'enregistrer ce qu'il se passe dans une salle tout en étant à l'extérieur et surtout sans placer de microphone préalablement dans la salle. Léon Térémine n'a pas vraiment le choix de trouver une solution et il va partir d'un constat simple. Quand une personne parle, elle va faire vibrer l'air autour d'elle, l'onde va se propager dans la salle jusqu'à rencontrer un mur ou une fenêtre. À ce moment-là, l'onde va transmettre une partie de son énergie à la surface et va la faire vibrer très légèrement. Et c'est cette vibration que veut capter Léon Térémine. Son idée, envoyer une onde infrarouge, donc une onde invisible, en direction de l'une des fenêtres de la salle que l'on veut espionner. L'onde va rebondir sur la vitre et revenir à l'émetteur. En mesurant la différence entre l'onde émise et l'onde reçue, il est possible de mesurer la vibration de la fenêtre et donc de savoir ce qu'il se dit dans la salle. La qualité audio n'est pas incroyable, mais ça suffit pour comprendre ce qu'il se dit. Et pour les années 40, c'est quand même une sacrée prouesse technique. Malheureusement, il n'existe pas d'enregistrement d'époque du dispositif. Les sons qui ont été diffusés proviennent de recherches similaires menées au MIT en 2014 par Abe Davis et ses collègues. Dans leurs recherches, ils ont remplacé le faisceau d'ondes infrarouges par une caméra haute résolution.
J'ai même pu voir un petit film où était décryptée une conversation en regardant les vibrations d'un paquet de chips en vidéo. Je trouve ça absolument extraordinaire. Le temps passe, nous arrivons à la fin de l'émission. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous Pierre Mahé pour votre incroyable explication. Merci à vous Pierre Gatineau. Votre livre Les espions du président, coécrit avec Antoine Isambard, est publié aux éditions Albin Michel. Merci Caroline Laurent. Merci à vous Thierry Rousselin. Et merci bien sûr au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Gaspard Guy Bourget, à la vidéo Nicolas Delmas et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour deux émissions à la Maison de la Radio. Nous parlerons tremblement de terre et autisme. Rendez-vous dès maintenant sur le site de la Maison de la Radio pour réserver vos places.